Radio Okapi. Grande interview.
Il s'appelle Albert Moleka, il est ancien directeur du cabinet d'Étienne Tshisekedi, vous l'avez compris, c'est lui notre invité aujourd'hui. Et pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi, dont le corps est arrivé à Kinshasa jeudi 30 mai dans la soirée, nous l'avons invité pour parler du combat d'Étienne Tshisekedi, un combat pour le rétablissement de l'état des droits en RDC. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la technique, Michel Kifinda réalise cette émission. Au micro, Kéline Couté. Albert Moleka, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est un plaisir.
Vous avez été directeur du cabinet d'Étienne Tshisekedi pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme?
Mais c'était d'abord un homme qui avait une vision spécifique pour la République démocratique du Congo et surtout un homme dont la lutte en fait consistait à reconstruire, si je peux dire, l'être congolais autour d'une vision, autour de convictions, autour de principes et autour de valeurs. Et c'est ce qu'il a toujours exprimé ou voulu exprimer à travers son combat.
Beaucoup de gens aujourd'hui entendent parler d'Étienne Tshisekedi sans bien le connaître. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son idéologie politique?
Mais son idéologie politique était articulée principalement sur la recherche de deux axes, l'établissement de l'état de droit ainsi que la démocratie qui en découlerait. Et la méthode choisie était la non-violence. Il était inspiré en cela par Gandhi, par la lutte de Gandhi et par la lutte du révérend Martin Luther King. Ce qui était assez inédit pour l'Afrique et spécialement pour notre pays, vu que nous avions connu beaucoup de violence dans le cadre des antipathies ou des antagonismes politiques. Beaucoup de choses se réglaient dans la violence, et tandis que l'UDPS avait choisi la voie de la non-violence.
On dit de lui qu'il est le père de la démocratie. En quoi son combat était fondamentalement démocratique?
Bon, lui-même ne s'est jamais déclaré le père de la démocratie. Hein. Je crois que ce titre, c'est la perception principalement, bien sûr, de ces fanatiques ou de ces militants ou de ceux qui se retrouvaient dans cette lutte. Il a été indéniablement un des grands acteurs de l'avènement du pluralisme dans notre pays et un des grands combattants pour cette vision de la démocratie que nous ne vivons pas encore, mais au moins il a dressé la voie et il a montré la direction. Vous savez, la démocratie, elle est difficile encore à définir dans notre pays, parce que je crois lui aussi avait bien compris que le Congolais devait rechercher sa propre forme de démocratie, devait apporter sa propre empreinte dans le combat pour la démocratie, pouvoir définir quelle est la démocratie congolaise, quelle est la meilleure manière pour les Congolais de vivre une démocratie. Et dans son entendement, cela commençait par l'établissement de principes et le respect de valeurs. Et cela ne pouvait se créer qu'en provoquant une certaine conviction dans le cœur des gens. Et il était conscient de sa responsabilité dans ce combat, en se disant que dans la réalité, les gens seront convaincus si moi-même je peux projeter l'image de cette conviction, si moi-même je peux incarner l'image de cette conviction. Non, il était très conscient du rôle qu'un leader devait avoir, que le leader devait être un exemple. Et le leader devait beaucoup plus être suivi que être craint. Et c'est ainsi que, évidemment, accompagné d'un aura, d'un charisme exceptionnel qu'on a rarement vu dans ce pays et même dans ce continent, il a pu alors entraîner toute une large majorité du peuple congolais la poursuivre de cette lutte pour la démocratie.
Vous dites que lui-même ne s'est jamais considéré comme étant le père de la démocratie, mais vous, en tant qu'ancien directeur des cabinets, vous avez travaillé avec lui pendant plusieurs années. Est-ce que vous pensez que ce qualificatif lui convient?
Je pense que ce qualificatif lui convient pour la période politique où il a lutté pour l'avènement de cette démocratie. Mais je dirais, historiquement, nous savons que en 1960, nous avions un régime démocratique et multipartiste qui s'est arrêté le 24 novembre 1965 avec le coup d'état du général Mobutu à l'époque. Et là, nous étions entrés, comme la plupart des pays africains, dans la période plutôt des partis États. Et Étienne Tshisekedi faisait partie de ce système. Mais disons que, à sa décharge maintenant, c'est tout à son honneur qu'il a pu un moment se rendre compte que lui-même devait se révolter contre le système qui le nourrissait. Et donc c'est un combat aussi de sacrifice, parce qu'il a eu à sacrifier toute sa vie, il a eu à sacrifier les honneurs, il a eu à sacrifier du bonheur, le temps avec sa famille, avec ses enfants. Il a dû sacrifier des biens matériels, la recherche de biens matériels. Mais je crois que c'est ça aussi qui a beaucoup contribué à sa crédibilité et à l'établissement de son leadership, et que le peuple et ses militants lui faisaient totalement confiance.
Si aujourd'hui on faisait de la pensée d'Étienne Tshisekedi toute une doctrine, comment définiriez-vous le tshisekedisme?
Non, je définirais le tshisekedisme comme la pensée politique mettant en avant la nécessité d'une vision positive et réaliste pour le développement de la RDC, et cette vision basée sur des principes établis et dans le respect des valeurs telles que l'intégrité, le respect des droits humains, et bien sûr la recherche de la paix.
On va parler des accords de Sun City. Certains analystes reprochent à Étienne Tshisekedi d'être allé signer un accord avec le Rwanda en 2002. Qu'est-ce qui avait motivé cette démarche de lutte épaisse à l'époque?
Non, souvenez-vous que à un moment, donc en 2002, deux parties prenantes à ce rassemblement de Sun City avaient décidé de signer et faire leur propre accord sur le côté, les fameux accords de l'hôtel de la Cascade entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, ce qui vidait en fait cette rencontre de Sun City de toute sa substance. Et Étienne Tshisekedi à ce moment-là a créé avec d'autres une structure pour la sauvegarde du dialogue, l'ASD, et pour cela il a pris comme partenaire notamment le RCD Goma. Et c'est à ce titre-là et pour cette raison-là qu'ils sont allés jusqu'à Kigali parler avec les autorités rwandaises, parce qu'ils savaient l'influence de ces autorités sur plusieurs belligérants. Mais en fait, l'objectif, c'était obliger Jean-Pierre Bemba et son parti MLC, et Joseph Kabila, à revenir à la table du dialogue, à la table des négociations. En disant en fait, bon, si vous ne revenez pas à la table des négociations, vous courez le risque d'une autre guerre beaucoup plus sanglante encore. Et je crois que la stratégie a réussi, puisque tout le monde est revenu à la table des négociations.
Mais cette démarche a été quand même mal vue par les Congolais.
Cette démarche est mal vue par certains Congolais jusqu'aujourd'hui. Mais encore, si vous suivez la vie politique d'Étienne Tshisekedi, vous verrez qu'à plusieurs reprises, il a pu avoir et des attitudes ou prendre des initiatives qui ne plaisait pas à tout le monde et qui ne plaisait pas nécessairement à ses propres partisans. Et ça, c'est aussi le signe du leader. Le leader n'est pas toujours un suiveur, le leader est celui que l'on suit. Et je crois que pour l'intérêt du pays, il a estimé qu'il devait jouer avec les acteurs qui étaient très importants sur le terrain. Et il savait très bien, il était connu de tout le monde, que le Rwanda exerçait une influence importante déjà à l'époque dans la vie politique congolaise et sur plusieurs belligérants.
Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017, deux ans après, son corps est rapatrié en RDC pour les hommages populaires. Depuis l'annonce des obsèques d'Etienne Tshisekedi, on a constaté quand même plusieurs messages discréditant son image, des messages qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez, par exemple, à ceux qui pensent que faire d'Etienne Tshisekedi un héros national, c'est recracher sur la mémoire de Patrice Emery Lumumba?
Mais écoutez, Étienne Tshisekedi, l'homme et l'homme politique, n'a jamais dit qu'il était parfait. Au contraire, lui-même répétait très souvent, il tenait à ce que les gens sachent qu'il était un homme avec ses qualités, avec ses défauts. Il ne reniait pas non plus son passé. Il disait clairement qu'il a participé à la consolidation du parti État, à la création du parti État, donc il ne reniait pas son passé. Dans son passé, il a pu commettre et il a commis certainement des erreurs, mais des erreurs aussi qu'il faut, je crois, regarder et apprécier selon le cadre et l'environnement politique de l'époque. Mais ce que l'on retient surtout, c'est ce qu'Étienne Tshisekedi a accompli dans la dernière partie, disons, de sa lutte politique avec les pères fondateurs de l'UDPS. C'est ça que l'on retient beaucoup plus.
Est-ce qu'il mérite d'être élevé au rang d'héros national?
Ma réponse serait la suivante. Si vous lui aviez posé la question lui-même, vous aurez répondu: je ne suis qu'un homme avec mes qualités, avec mes défauts. Le reste, ça regarde ce que les gens peuvent dire. Et il était très réaliste par rapport aux gens qui le déifiaient, qui en faisaient une légende, qui en faisaient un mythe. Il était très réaliste là-dessus. Il prenait ça avec beaucoup de hauteur, mais ce n'est pas une personne qui recherchait les honneurs.
Certaines personnes pensent que le fait, pour Étienne Tshisekedi, d'avoir été impliqué dans l'exécution des martyrs de la Pentecôte et surtout d'être cofondateur du MPR, qui était le parti unique jusqu'en 90, Étienne Tshisekedi ne mérite nullement d'être considéré comme le père de la démocratie congolaise.
Les pères de la démocratie au Congo, il y en a plusieurs. Mais je crois que Étienne Tshisekedi s'est distingué depuis fin des années 80, s'est distingué dans le combat pour l'établissement de l'état de droit au Congo et pour la démocratie. Et d'ailleurs, ces deux objectifs ne sont pas encore atteints. N'oublions pas, ces deux objectifs ne sont pas encore atteints. Alors, je crois qu'il est tout à fait normal, surtout que ses partisans, vous savez, les personnes comme nous étions très proches de lui, il est normal que nous puissions lui accorder et des titres et des adjectifs tout à son honneur. Ça, ce sont des attitudes bien sûr partisanes, mais lorsque on regarde au niveau national, je crois qu'il faut toujours rechercher le consensus pour ce genre de personnalité. Vous savez, jusqu'à présent, je pense que nous avons eu officiellement Lumumba héros national. Il a été désigné héros national sous le régime de Mobutu. Mais je crois que c'était un peu déjà forcé, vu que la renommée et la perception de la lutte de Patrice Emery Lumumba avait déjà dépassé nos frontières, avait dépassé l'Afrique et avait embrasé tous les continents. Donc Lumumba était déjà célébré à l'extérieur avant d'être reconnu héros national dans son pays. Il existait déjà l'université Patrice Lumumba à Moscou, il existait des boulevards Lumumba à gauche à droite de par le monde. Donc Mobutu était d'une certaine manière obligé de le reconnaître quand même à la maison, si je puis dire. Tandis que pour Laurent Désiré Kabila, par exemple, il a été élevé à la dignité de héros national simplement par ses partisans, pour une lutte qu'ils ont menée ensemble pour leurs intérêts et les intérêts de ceux qui les ont soutenus. Et moi, je pense que dans le cas d'Étienne Tshisekedi, il faut rechercher un consensus national. Il ne faut pas que cette question de héros national ou pas héros national devienne une polémique qui finalement risque de voiler tout ce que cet illustre personnage a accompli pour la République. Nous devons quand même accepter tout ce qu'il a fait pour la République, sa contribution à la lutte qui est encore valable de nos jours, cette lutte pour l'établissement de l'état de droit et de la démocratie. Et il n'y a pas de comparaison à faire entre Étienne Tshisekedi, par exemple, et Patrice Lumumba. Les combats ont eu lieu à des époques différentes et les combats, la vision était aussi différente vu que les époques étaient différentes.
En parlant de Laurent Désiré Kabila, pourquoi Étienne Tshisekedi avait refusé de travailler avec lui?
Ben, en fait, Étienne Tshisekedi avait conseillé à Laurent Kabila de renvoyer ses partenaires de guerre. Les armées rwandaises, les armées ougandaises, en disant, écoute, nous comprenons que les amis t'ont aidé à arriver jusqu'à Kinshasa, dis-nous combien nous leur devons, qu'on se mette d'accord sur une modalité de paiement et qu'ils partent de sorte que nous puissions, entre nous, Congolais, décider de ce que nous allons faire. Mais à cette époque-là, Laurent Kabila ne pouvait pas encore se séparer de ses soutiens rwandais et de ses soutiens ougandais, par exemple. D'où il y a eu cette mésentente. Étienne Tshisekedi a réalisé que, en fait, l'entreprise de Laurent Kabila n'était pas une entreprise pour la démocratie et pour l'état de droit, mais plutôt que ça allait faire retomber le pays aux mains de cette haute finance internationale et des milieux économico-financiers extérieur, et ça ne concordait pas avec la lutte d'Étienne Tshisekedi, donc il était normal qu'il y ait ce différent. Et d'ailleurs, nous avons vu la répression exercée sur Étienne Tshisekedi sous Laurent Désiré Kabila était exactement la même que celle qui était exercée contre lui sous la Deuxième République.
Alors, depuis un peu avant le décès d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS s'est vue divisée et ses grandes personnalités, certaines ont quitté et d'autres ont été carrément chassées du parti. Vous, personnellement, Albert Moleka, pourquoi avez-vous quitté l'UDPS?
Bon, moi j'ai quitté l'UDPS j'ai pris congé de l'UDPS le 14 mars 2015, un an jour pour jour après notre dernière séance de travail avec Étienne Tshisekedi, avant qu'il ne parte en Europe pour des soins. Vous me permettrez de ne pas revenir sur les circonstances dans lesquelles notre collaboration a été interrompue, simplement à dire que ce n'était ni sa volonté ni la mienne, mais j'ai pris la décision officielle de prendre congé donc de l'UDPS dès lors que l'UDPS, en février 2015, avait écrit à la MONUSCO une feuille de route réclamant le dialogue avec Joseph Kabila et son entourage politique. Dialogue qui a consisté par des rapprochements à Venise, à Ibiza, et qui a été à l'origine du dialogue que l'Union africaine a essayé de modérer, et puis après la CENCO a pris le relais, ce qui nous a amené l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a permis à Joseph Kabila encore de glisser quasiment 2 ans, et nous a amené, nous a conservé dans ce processus électoral vicié qui a produit les résultats que nous connaissons tous aujourd'hui.
Le fait que plusieurs grandes personnalités aient quitté l'UDPS, que ce n'est pas une preuve que l'œuvre laissée par le leader Maximo, comme on l'appelait, n'est pas très solide?
Non, je crois que, vous savez, lorsque vous évoluez autour de ce genre de personnage, vous-même, vous apprenez beaucoup, et je crois que certains ont pris leur décision de quitter, simplement se sentant arrivés aussi à un niveau où ils ne partageaient pas nécessairement toute la stratégie, hein, et qui pensaient qu'ils pouvaient eux aussi évoluer dans un autre cadre. N'oubliez pas, aujourd'hui, on peut dire que 80% des acteurs ou des leaders politiques en RDC sont passés par l'UDPS à un moment ou à un autre. Donc l'UDPS a quand même produit beaucoup d'acteurs politiques de ce moment. Maintenant, lorsqu'on regarde leur apport, l'apport de ces acteurs politiques pour le développement de notre pays et pour cet ancrage démocratique, on peut bien sûr se poser des questions. Il faut aussi voir que l'UDPS, c'était un parti très très particulier, même au niveau mondial. C'était le parti au monde qui avait le plus de fédérations, même à l'extérieur des frontières congolaises. Et il était difficile d'avoir peut-être une organisation rationnelle à 100% de cette grosse machine, sans pour autant responsabiliser à un certain niveau les cadres qui étaient compétents, qui s'avéraient compétents. Ajoutons à cela les luttes internes qui sont intrinsèques à chaque organisation de ce genre. Il est normal qu'il y ait eu des froissements, qu'il y ait eu même des collisions, et que certains aient quitté l'UDPS. Mais je crois que le plus important, c'est toujours l'avenir. Que peut devenir ou que deviendra l'UDPS?
Justement, comment vous voyez l'UDPS dans 5 ou dans 10 ans?
Écoutez, tout d'abord, l'UDPS qui a été au départ créé, fondé par des personnalités politiques de grande envergure, c'était des hommes d'État, les Faustin Birindoy, Étienne Tshisekedi, Josué Ngalula, Frédéric Kibasa Maliba et d'autres, étaient des personnalités politiques de haut niveau à l'époque. Ce parti ayant passé d'abord par la clandestinité, donc par les souffrances, ayant connu la répression, c'est ce qui a créé chez ses partisans cet esprit de conviction et de sacrifice et de lutte. Mais bien sûr, il y a eu les conflits, les antagonismes, les rivalités inhérentes à la conjonction d'ambitions politiques différentes, qui ont fait que petit à petit les fondateurs aussi se sont séparés, et Étienne Tshisekedi et Frédéric Kibasa étaient restés, je crois, les seuls qui à la fin animaient un mouvement politique, et chacun a gardé le nom UDPS. Maintenant que Étienne Tshisekedi est parti, comme vous avez dit tout à l'heure, nous avons déjà assisté avant son départ à certaines dissensions. Et après son départ, ces dissensions se sont matérialisées ou se sont légalisées. C'est-à-dire que nous avons tel qui a son UDPS, tel, il y a 3 UDPS reconnus au niveau de l'administration, 4 si on ajoute l'UDPS Kibasa. Je crois que l'avenir de l'UDPS dépendra d'abord de son engagement à respecter ses textes ou éventuellement à se définir de nouveaux textes et à redéfinir la lutte actualisée ainsi que les stratégies de la lutte actualisée. Puisque ce n'est plus l'UDPS de Tshisekedi, bien que ça s'appellera toujours UDPS Tshisekedi, mais ce n'est plus non plus la lutte d'Étienne Tshisekedi. Je crois qu'il faut être honnête et reconnaître que maintenant l'UDPS a des nouveaux leaders, l'UDPS Tshisekedi a des nouveaux leaders qui doivent aussi eux-mêmes créer leur propre histoire et développer ce parti, le faire peut-être aussi renaître de ses cendres. C'est un parti qui a un potentiel toujours extraordinaire, presque unique au Congo, mais il y a maintenant aussi la concurrence avec ce pluralisme politique, une concurrence qui est féroce, et toute place que vous laissez vide est rapidement prise. Bien que dans le cœur des militants, dans le cœur des Congolais, Étienne Tshisekedi restera une personnalité unique. Et je crois que ça sera toujours lui rendre hommage de faire en sorte que le parti qu'il aura laissé ne subisse pas le sort. Je prendrai l'exemple de certains orchestres comme OK Jazz, de continuer à garder l'UDPS comme une entreprise politique productive.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Grand Interview reçoit pour vous aujourd'hui Albert Moleka, ancien directeur des cabinets d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, qui est président de la République. Comment vous évaluez ces quatre premiers mois de gouvernance par rapport aux convictions de son père, qui était votre leader?
Je crois pour être juste d'abord envers Félix Tshisekedi et toute autre personne, il ne faut pas comparer à Étienne Tshisekedi. Vous savez, des personnalités comme ça, vous n'allez pas les comparer à d'autres personnes. Il appartient à chacun de faire sa propre histoire et je pense que Félix Tshisekedi a sa propre vision du Congo, il a ses propres convictions, comment mener le parti et comment gérer la République, et je crois qu'il l'a démontré durant les quatre premiers mois de sa présence à la tête de la présidence de la République. Nous avons vu que ce qu'on peut retenir, surtout le positif, c'est cette libéralisation quand même de l'espace, de l'expression politique. La libération des prisonniers, ça me touche plus particulièrement en tant qu'aumônier des prisons. Et ce sont des choses déjà très 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 importantes. Il ne faut pas oublier, là-dessus, on vient quand même de très loin. En ce qui concerne la gestion proprement dite, je crois qu'il avait lancé un programme des 100 jours et pour être honnête intellectuellement, laissons-le lui-même d'abord faire le rapport de ses accomplissements pendant les 100 premiers jours, surtout en ce qui concerne les travaux d'infrastructure, tout ça qu'il avait promis, et après nous pourrons critiquer.
Alors maintenant que son fils Félix Tshisekedi est président de la République, est-ce que ce n'est pas le moment pour tous les anciens du parti de se mettre ensemble autour du nouveau chef pour matérialiser la vision d'Étienne Tshisekedi?
Bon, je crois que chacun, bien sûr, a son analyse et son avis là-dessus. Moi, ce que je remarque, c'est que normalement, lorsque vous accédez à ce genre de responsabilité, que ce soit au niveau de l'État ou même au niveau des affaires, c'est vous qui choisissez vos collaborateurs. Les collaborateurs ne s'imposent pas à un chef. C'est le chef qui choisit ses collaborateurs, et plus tard, en fait, les accomplissements et l'œuvre du chef sont tributaires aussi de l'accompagnement dont il a pu bénéficier, donc de son choix des collaborateurs. Je crois que toute personne qui a œuvré avec Étienne Tshisekedi sera toujours enclin de participer à une lutte qui reflète les valeurs et les principes que prônait Étienne Tshisekedi.
Albert Moleka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Grande Interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Albert Moleka, ancien directeur des cabinets d'Étienne Tshisekedi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la présentation et la préparation de cette émission. Je vois Jean-Noël Mokondo, Michel Kifinda, Jean-Marc Matwaki au micro. Kéline Kouté, je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie des programmes de Radio Okapi.